Au pays des cratères est présenté par la Fabrique culturelle de Télé-Québec en partenariat avec Transistor Média.
D'où je viens, c'est tellement plat que le soleil finit plus de se coucher. C'est tellement plat que je me suis demandé si on n'avait pas ressenti le besoin d'ériger nos propres montagnes. Des montagnes du haut desquelles on ressent un vertige de contradictions. Puis en ce moment, d'où je viens, on est à la croisée des chemins coulants. Moi, c'est Gaël, puis je viens de l'Abitibi. Le petit gars sur la VHS que vous venez d'entendre, c'est moi, à 4 ans, dans la balançoire chez mes grands-parents. Des souvenirs de mon enfance comme ça à Val-d'Or, j'en ai plein. L'Abitibi, c'est là où je me suis fait mes plus vieux amis, puis là aussi où ma famille habite encore. À quelque part, c'est chez moi, même si j'ai quitté la région à l'âge de 17 ans pour les études. Aujourd'hui, je reste à Montréal, dans Grandville, un monde complètement différent. Puis c'est drôle parce que quand je dis aux gens d'où je viens, j'entends souvent les trois mêmes affaires. Premièrement, ils me disent qu'ils sont jamais allés en Abitibi. Je le sais que vous êtes pas allés, on passe pas là par hasard. Puis c'est pas la région la plus touristique au Québec. J'entends souvent aussi qu'on est une région éloignée, qu'on doit être à genre 12 heures de route de Montréal. On est juste à 6 heures de route en auto. Mais c'est sûr que si tu considères que Saint-Sauveur, c'est dans le nord, je comprends que t'as l'impression que Val-d'Or, ben, c'est la toundra. Puis finalement, on parle toujours des fameuses mouches noires. Oui, il y en a. Mais l'Abitibi, c'est pas mal plus que tout ça. C'est des épinettes, des lacs à pu finir, des festivals de musique, d'humour, puis des gens vraiment sympathiques. Mais des fois, dans l'imaginaire collectif, l'Abitibi-Témiscamingue, ça se résume à ce qu'on appelle une région ressource. Une contrée à l'autre bout du monde où il n'y a rien à faire à part couper du bois, puis creuser des mines. Puis c'est vrai que, sur bien des points, l'activité économique de la région, ça se base beaucoup sur ces deux industries-là. Tellement que ça en devient une culture omniprésente. Je l'aime, l'Abitibi. J'y retourne souvent puis je suis fier de dire que je viens de là. Mais on dirait qu'il a fallu que je parte pour me rendre compte que son grand territoire, je le connaissais pas autant que je pensais.
Oui, le monde est en train de changer. De plus en plus, les compagnies en Europe et à travers le monde recherchent des sources fiables des ressources naturelles dont ils ont besoin pour faire cette transition vers un avenir plus propre.
En droite ligne, avec cette volonté, je suis très fier de dévoiler le plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Ce plan de relance économique va positionner le Québec comme un leader dans le domaine. Nous avons la chance d'en avoir dans le sous-sol québécois. Notre gouvernement s'est donc mis au travail pour valoriser ce potentiel-là et de créer des vraies opportunités de développement dans plusieurs régions du Québec.
Et là, on se donne un objectif très ambitieux d'atteindre 2 millions de véhicules d'ici 2030. 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030.
On pose des gestes concrets pour alimenter la transition énergétique, la transition technologique également. C'est des transitions qui sont essentielles à la lutte contre les changements climatiques.
Récemment, on parle plus d'une crise climatique. Les effets s'observent partout sur la planète. Cette urgence-là, je la ressens et le manque d'action m'inquiète. Comme beaucoup de monde, je veux qu'on prenne les bonnes décisions pour limiter les dégâts, pour laisser un meilleur futur aux prochaines générations. L'heure est à la transition. C'est dans ce contexte-là qu'on entend de plus en plus parler en Abitibi de minéraux critiques et stratégiques qui pourraient contribuer à cet effort-là. On observe un nouveau boom minier, notamment dans l'exploration pour des mines de lithium, un minerai qui pourrait alimenter des batteries de voitures électriques. C'est sûr que rapidement, comme ça sonne comme une bonne nouvelle. On nous dit qu'on a besoin de minéraux pour faire la transition énergétique, puis ils sont là, dans le sous-sol de l'Abitibi. Non seulement on pourrait contribuer à la transition, puis en plus de ça, ça pourrait être bon pour l'économie locale. Mais en Abitibi, les mines, il me semble, il y en a déjà pas mal. On sait que c'est important pour la région, mais des mines, ça vient aussi avec un impact environnemental. Ce qui m'a surpris, c'est que les prochains projets miniers seraient probablement des open pit, des mines à ciel ouvert. Ça me rend un peu perplexe parce que là, on veut creuser plusieurs grands trous pour sauver des écosystèmes. Mais c'est pas un peu contradictoire? C'est-tu ça le meilleur chemin pour faire la transition? Là, je veux pas être le péteux de party puis vous dire que ces minéraux-là, ils servent à rien. Je veux juste prendre le temps de réfléchir à ça. Ça va être combien de trous? Ça va servir à quoi exactement? Est-ce que ça va nous permettre d'atteindre nos cibles? Les gouvernements ont l'air d'avoir grand avec ces projets-là, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça exactement? On le sait-tu tant que ça? Comme je ne suis pas pantoute un expert dans ces questions-là, puis que j'ai pas fait chimie physique au secondaire aussi, là, j'appelle Elliot Muller. C'est un ingénieur spécialisé en génie de l'environnement et en cycle de vie des produits. Je veux commencer par la base, puis comprendre pourquoi on a autant besoin des minéraux critiques et stratégiques pour la transition.
Parce que ça vient toucher à deux vraiment questions qui sont très actuelles, qui sont à la fois la transition numérique. Donc tous ces métaux et ces minéraux-là sont beaucoup utilisés dans tous les appareils numériques qu'on utilise et qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, mais aussi dans la transition vers une économie bas carbone, et notamment dans la production de batteries. Donc ce sont des matériaux qui sont beaucoup utilisés et qui vont être de plus en plus utilisés. Et l'enjeu, c'est que la plupart de ces minéraux-là sont déjà présents en quantité relativement limitée sur Terre, ou sont accessibles en tout cas en quantité limitée sur Terre, et dans des zones souvent très 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 limitées. Donc ça revêt tout de suite d'une importance géostratégique d'avoir accès à tous ces minéraux-là pour la transformation des économies dans un futur proche.
Donc c'est vraiment sont vraiment vus comme des outils pour aider la transition énergétique.
Entre autres, oui, en particulier, oui.
Le lithium, par exemple, fait partie de la liste de ces minéraux critiques et stratégiques. À quoi il sert dans ces deux volets-là que vous avez décrits?
Alors, la principale utilisation... Le lithium, historiquement, il était utilisé dans plusieurs applications différentes. Que ça pouvait aller de la métallurgie, de la production de verre ou de céramique, mais aussi, en particulier, puis c'est comme ça qu'il est le plus utilisé maintenant, c'est pour la production de batteries. Donc, ça soit dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications ou, bien sûr, du transport.
Mais pourquoi est-ce que l'électrification des transports s'est autant mis de l'avant dans ce plan-là de transition énergétique?
Alors déjà, pour préciser, ce n'est pas exclusivement pour les véhicules et les voitures, c'est aussi pour tout un tas d'autres utilisations de batteries, dans tout ce qui est de l'électronique, dans aussi les batteries stationnaires. On utilise vraiment ces batteries-là pour beaucoup de choses et pas seulement les véhicules, mais en particulier, effectivement, on parle beaucoup des véhicules en ce moment. Alors pourquoi électrifier le secteur du transport, c'est vraiment important? Parce que tout d'abord, c'est le secteur ou un des secteurs qui a le plus d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre des économies modernes. En particulier, on estime que ça représente 30% des gaz à effet de serre émis au Canada et 40% au Québec. Donc on voit que c'est des secteurs qui seraient les secteurs principaux sur lesquels venir jouer. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il y a des technologies qui existent pour venir décarboner ces secteurs-là, ces secteurs du transport, ce qui n'est pas le cas pour toutes les technologies qu'on voudrait venir décarboner.
Une des réponses faciles que le Québec peut avoir pour aider à la transition énergétique, se décarboner, les transports, c'est une grosse part du gâteau.
Oui, exactement, c'est même la principale part, ou en tout cas une des parts principales du gâteau, en particulier au Québec, où on a la chance d'avoir un mix électrique très peu carboné actuellement. Donc l'électrification aurait vraiment un impact très important sur la réduction de nos gaz à effet de serre. Après, il y a une toute petite nuance à apporter à ça, c'est qu'il faut faire attention. Oui, actuellement, notre mix électrique est très peu carboné, parce que notamment, il est très basé sur l'hydroélectricité au Québec. Mais si on vient électrifier des pans entiers de l'économie qui n'était pas auparavant, notamment les transports, on va venir avoir une demande de consommation d'électricité qui va exploser, qui va devenir beaucoup plus importante. Donc, il faut s'assurer comment est-ce qu'on répond à cette augmentation de la demande-là et qu'on le fasse toujours avec des solutions peu carbonées.
J'appelle après ça Rodrigue Turgeon.
Bonjour Rodrigue.
Bonjour.
Rodrigue, c'est un avocat spécialisé en droit de l'environnement. Il est co-responsable du programme national de Mine & Watch Canada et aussi co-porte-parole de Québec Meilleure Mine. Il s'est opposé, entre autres, à quelques projets de mines de lithium qui étaient en développement à l'époque.
Pourquoi qu'on est autant sur l'accélérateur, sur ces minéraux-là?
La justification verte, là, entre guillemets, là, que le gouvernement et l'industrie prônent, c'est de dire que l'utilité de ces métaux-là va permettre de décarboner l'économie. Que ces métaux-là vont permettre d'offrir davantage de véhicules électriques individuels. Au-delà de ce discours-là marketing, il n'y a pas de démonstration chiffrée là, sur à quel point ça va nous permettre de rencontrer les cibles climatiques dans un délai précis. Partant de l'exploration, de l'acquisition d'un claim jusqu'à l'exploitation puis la fin du gisement. L'exploitation du gisement, ça se déroule sur une échelle de 40 ans. Là, c'est un plan qui se chiffre en plusieurs décennies. C'est pas un plan à court terme d'intervention pour sobrer l'économie en carbone. Là. C'est comme donc c'est une grande hypocrisie de la part du gouvernement là-dedans à mettre de l'avant ce plan-là comme une solution à la crise climatique, alors que la crise climatique, elle est immédiate et elle requiert des actions draconiennes immédiates. Et on se retrouve dans une région ici, l'Abitibi-Témiscamingue, territoire non cédé à Anishinaabe acquis, où il y a un accaparement des terres drastique, extraordinaire et finalement comme vraiment bouleversant là, dans la dernière année. Là, il y a eu de larges pans du territoire non cédé de la nation Anishinaabe qui ont été claimés par des sociétés minières pour développer des projets de mines de lithium. Donc, on est au stade de l'exploration. C'est des claims, des titres d'exploration, des permis d'exploration minière exclusifs qui ont été accordés à ces sociétés-là, des centaines de sociétés-là. Mais tout de même, ça couvre très large et il n'y a personne qui a été informé de ça.
Communiqué de presse de l'entreprise minière Sayona, le 19 janvier 2023.
L'année 2023 sera remarquable à tous égards pour Sayona et pour le Québec en entier, alors que les premières tonnes de spodumène de lithium seront produites à notre complexe Lithium Amérique du Nord. L'enthousiasme et la fierté de produire enfin du lithium ici se transposeront à l'ensemble de nos projets et nous propulseront dans l'atteinte de nos ambitieux objectifs pour tout le Québec. Le moment sera historique. C'est ici, au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, qu'opérera le seul producteur de lithium en Amérique du Nord.
Ça bouge rapidement en Abitibi. Il y a plusieurs compagnies qui font du forage exploratoire un peu partout sur le territoire pour trouver des minéraux critiques et stratégiques. Au moment de commencer le balado, il y a seulement 3 projets actifs dans la région, tous sous la même compagnie, Sayona. Il y a le projet Tanzim au Témiscamingue, au nord du lac Simard, une continuité de la rivière des Outaouais. Le projet se trouve près de la communauté Anishinaabe de Long Point First Nation, plus précisément à Winway. Il y a aussi le projet Autier, qui se trouve tout près d'un estuaire, à quelques kilomètres au sud d'Amos, près du village de Lamotte. Ça se trouve sur le territoire ancestral de la communauté Abitibi-Winnie de Picogan. Et puis récemment, il y a eu l'ouverture du complexe minier Lithium Amérique du Nord. Ça se trouve à La Corne, un village à 30 minutes au nord de Val-d'Or, où il y a une partie de ma famille qui habite. La fosse est déjà présente parce que c'est une mine qui a réouvert, en fait. Elle avait fermé et changé de compagnie à plusieurs reprises. Mais cette fois, j'entends dire que les gens de La Corne ont plus d'espoir parce qu'on transforme maintenant la ressource sur place. D'ailleurs, mes parents m'ont dit que mon oncle, un foreur depuis plusieurs années, pourrait peut-être commencer à travailler là-bas pour se rapprocher de chez lui et de sa famille, à la place de faire des longues runs dans le nord du Québec. Ça me fait penser que ce balado-là va être délicat à faire. Je me demande comment mes proches vont percevoir ça, puis si je vais pas mettre quelqu'un dans l'embarras. Parce que quand on vient de l'Abitibi, on connaît presque tous quelqu'un qui travaille dans les mines. C'est un sujet qu'on n'aborde pas nécessairement dans les soupers de famille. Quand tu sens que c'est les mines qui font rouler ta ville, mettons que tu poses pas trop de questions. Puis c'est précisément ça que je vais faire avec mon balado. Super. Le fait que j'ai quitté la région il y a plus de 10 ans, ça me donne l'impression que j'ai pas trop le droit d'aller gratter des bobos, de poser des questions ou même de faire un balado là-dessus. Comme si, de la métropole, de l'autre bord du parc La Vérendrye, j'ai plus vraiment un droit de regard sur ce qui se passe dans ma région natale. Je pense que j'ai besoin de parler avec un de mes plus vieux amis, un expatrié comme moi, Alec. On s'est donné comme point de rendez-vous la mythique et toujours savoureuse pataterie de la rue Ontario dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est un endroit où on a l'habitude de se rencontrer pour prendre des nouvelles.
Il vient d'être papa.
Il est quoi?
Il est papa. Il vient d'être père.
Ah ouais?
Ouais.
Alec a grandi comme moi en Abitibi. Il habite maintenant à Montréal et ça a même été mon coloc pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il termine une maîtrise en histoire de l'art sur les belvédères industriels. Il s'est particulièrement intéressé à celui qui surplombe la fosse de la mine canadienne Malartic, une des plus grosses mines à ciel ouvert au Canada.
Moi, ce qui arrive, c'est que des fois, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je suis parti de la BTV que je me sens un peu imposteur de prendre position. Tu sais, j'ai l'impression... Je sais pas si j'ai vraiment encore le balayage culturel abitibien pour que mon droit de parole soit valable, mettons. Je sais pas si t'as le même feeling quand tu travailles. T'as-tu l'impression que t'appartiens encore à l'Abitibi et que t'as le droit de parler comme t'habites plus vraiment nécessairement sur place?
Honnêtement, là, dernièrement, moi, j'ai commencé à sortir un peu de cette espèce de dilemme-là, qui est un faux dilemme, je pense, parce que quand même que tu serais là, tu ferais dire que tu travailles pas dans la mine. Là, si tu travailles dans la mine, tu dirais « Ouais, mais si tu prononces là-dessus, tu connais rien à ça. » Tu sais, comme, je pense que des fois, on tombe dans des questionnements justement d'ordre public, des questionnements politiques. Je pense qu'il faut tenir compte des différentes postures qui existent. Comme, tu sais, oui, il faut tenir compte de la posture du travailleur, la posture du gestionnaire de l'entreprise. Mais après ça aussi, je crois que c'est intéressant d'avoir le point de vue de la personne qui a une distance, justement, donc qui est comme moi, je suis à Montréal. Puis après ça aussi, c'est drôle. Juste pour un peu terminer sur ça, l'espèce d'argument de « Ah, t'es pas là, tu peux pas décider, tu peux pas te positionner. » Mais c'est tout le temps un peu dans l'inverse. Parce que, en fait, l'inverse, qu'est-ce qui est drôle, c'est que les gens qui investissent puis les gens qui décident si un projet a lieu ou si une mine ferme, ils sont où ces gens-là? On sait pas. On sait même pas ils sont où, genre. C'est genre des actionnaires qui sont à Toronto ou qui sont dans des états X, des états en fait inconnus. Tu sais, pourquoi on pourrait à distance pitcher tant de millions d'argent pour faire une mine, mais qu'on pourrait pas à distance soulever des questions. Je pense que c'est un piège, en fait, de tomber là-dedans. Okay.
Merci. Merci, parce que des fois, c'est la peur que j'ai, tu sais.
Je comprends, c'est-à-dire parce que moi aussi, exemple, tu sais, là, dans ma famille, quelqu'un commence à travailler dans les mines, puis je suis content pour cette personne-là. Alors, ouais. Honnêtement, puis je suis vraiment... Puis je m'intéresse aussi à ce qu'elle fait. Je m'intéresse à comme... Il faut vraiment distinguer l'industrie mineure de ses travailleurs.
Oui, ça c'est sûr, c'est deux affaires différentes.
Puis après ça, c'est pas parce que tu veux qu'une mine, par exemple, paye 20 % de redevance, là, c'est un chiffre comme ça. C'est pas parce que tu veux ça que tu veux que la mine ferme ou que tu veux que les travailleurs perdent leur job. Moi, je pense que c'est le contraire, en fait. Là.
Les gens se sentent attaqués dans leur portefeuille directement puis dans leur plan. On dirait que défendre la BTB, c'est que tu n'as pas le droit de questionner.
C'est à cause de l'industrie mineure, du régime de peur qui est installé dans cette région-là. Là. C'est juste. Parce qu'il y a des mineurs qui parlent là, quand ils sont pas à la mine. Ouais. La peur est installée par la menace de fermeture, la menace. La menace de fermeture, c'est un peu l'espèce de.
Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que des fois, dans la BTB, les gens ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui va marcher sans les mines. Tu sais. Mm-hmm.
Je sais pas. Je crois que c'est un piège aussi. T'sais, est-ce qu'en ce moment, l'Abitibi, ça roule? Est-ce que le fait qu'on multiplie les projets miniers ou les gros salaires avec des jobs qui sont précaires souvent, mais qui sont aussi... Ben, en fait, qui sont précaires, mais qui sont aussi de courte durée. Est-ce que ce modèle-là, en ce moment, fait que Malartic se développe? Est-ce que ça fait que Val-d'Or se développe? Puis, t'sais, c'est quoi aussi se développer?
On dirait que c'est ce sympathique mélange de conversation profonde puis de patates frites qui m'a donné le coup de pied ultime pour me décider à partir. Une couple de jours avant le départ, je suis allé regarder une carte des claims au Québec. Un claim ou un titre minier, en gros, c'est un terrain sur lequel un particulier ou une compagnie a un droit d'exploration minière exclusif. Puis quand j'ai vu la carte, j'avoue que je m'attendais vraiment pas à ça. Chaque petit carré en rouge, c'est un claim, puis des petits carrés, ben il y en a partout. Particulièrement dans des régions minières comme en Abitibi-Témiscamingue puis à la baie James, mais aussi en Mauricie, dans la Naudière, dans toutes les régions du Québec. la course aux minéraux critiques et stratégiques, c'est pas juste en Abitibi que ça va se passer. Je tombe après ça sur un article de Radio-Canada qui dit que la superficie du territoire sous titre minier a bondi de 46% en Abitibi-Témiscamingue au cours des deux dernières années. C'est quand même énorme. Plus loin dans l'article, je vois que ce serait le tiers du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue qui serait claimé. Puis juste en Abitibi, ça peut-tu dépasser le tiers? Parce que quand je retourne sur la carte puis que je zoome sur l'Abitibi seulement, sans compter le Témiscamingue, il y a vraiment beaucoup de claims actifs. Mais là, ça peut-tu tout devenir des mines, ces carrés rouges-là? Puis si ça se peut, de quoi ça va avoir l'air? D'un genre de paysage lunaire parsemé de cratères un peu partout? C'est-tu ça qui nous attend? Ok, faut que je me ressaisisse puis que j'arrête mes recherches. Parce que je me connais, puis si je continue à chercher d'autres informations, je vais finir par me perdre sur Wikipédia, puis à minuit, je vais être en train de lire le segment sur l'habitat naturel du Carcajou. Puis le balado s'appelle pas « Au pays des Carcajou ». Fait, ouais, faut que je parte là. Même si je m'en vais aborder des sujets sensibles, même si j'ai l'impression que je vais ouvrir une boîte de Pandore, de continuer à pas en parler, je pense que ce serait une erreur. Pour faire des choix éclairés et savoir ce qui nous attend, ça nous prend des espaces de discussion. Moi, j'ai l'impression que ce qui va bientôt se passer en Abitibi, c'est important. Puis qu'on n'a pas beaucoup de temps pour prendre les bonnes décisions. Je dois mentionner que je fais pas ce projet-là tout seul. Il y a ma blonde, Élise, qui part à l'aventure avec moi. C'est elle qui va prendre le son, entre autres, mais vous allez l'entendre aussi dans le balado à quelques reprises. Comme là, vous l'entendez pacter les choses puis s'assurer qu'on n'a rien oublié avant de partir. Bon, on va faire un petit plein, puis après ça, on va prendre la route. Ce matin-là, c'est une vraie tempête. On part de l'appartement puis on fait un petit arrêt pour faire le plein de l'auto. Après, on traverse l'île de Montréal, on embarque dans le trafic à Laval jusqu'à Saint-Jérôme en passant par Mirabel. On entre enfin dans les montagnes des Laurentides. Il y a moins de trafic, mais ça roule toujours trop vite. On laisse derrière nous Saint-Sauveur et Sainte-Adèle, ou ce que les Montréalais appellent « le Nord », suivi par Sainte-Agathe, les ronds-points de Mont-Tremblant, le village de la Belle, Rivière-Rouge, Lac des Écorces, puis enfin, Mont-Laurier. Mont-Laurier, c'est ce qui marque dans ma tête la moitié du chemin entre Montréal et Val-d'Or. Une ville interminable à traverser, les feux de circulation sont mal timés, c'est comme des obstacles pour te garder en otage puis te forcer à manger un burger. Pis la dernière étape avant Val-d'Or, ben c'est la plus longue, pis c'est le parc La Vérendrye. Le bout qui fait la plupart des gens, que quand c'est la première fois qu'ils s'en vont en Abitibi, se demandent pourquoi à l'autre bout de ça. Si dans les Laurentides, nos repères sont marqués par les villes et villages, dans le parc, c'est surtout les lacs qui nous rappellent que oui, malgré les longues heures, on avance, lentement mais sûrement, vers notre destination. Je pense que c'est la première fois que je prends le temps de lire le nom des lacs puis des places qu'on croise. On dirait que je les ai pris pour acquis. Avant, j'arrivais à en reconnaître quelques-uns, mais je leur donnais pas une attention particulière. Un peu comme j'ai fait pour ma région, j'ai l'impression. J'ai vécu là, mais j'ai pas pris le temps de comprendre tout ce qui m'entourait. On passe le lac Snell, le lac Roland avec les chutes Roland, le lac Tinongé. Je vois que sur une roche, c'est écrit Pierrette plus Roger. Sur une autre, Landback. On fait un arrêt presque obligé au domaine, puis on repart tout de suite. Kilomètre 348, le lac Réti, le lac Kamatose, on passe à côté de Dorval Lodge, on traverse la rivière des Outaouais. Le lac d'Ozoy n'est pas encore calé, mais le niveau de l'eau semble bas, en dessous de la glace. Le lac du Gabbro, près du garage ambulance, Kitisakik, lac McLaurin, la zone 3, puis Louvicourt. Ici, quand on arrive, on dirait que le ciel y est plus grand.
C'est pas tout de suite.
Ben, on voit le château d'eau.
On voit le château d'eau, on est arrivé. Ah oui, moi, je le voyais pas derrière la bonne. Et là, on a la bonne pancarte. Bienvenue à Val-d'Or, secteur urbain. C'est le gros trou à l'entrée de la ville. Pour nous autres, il est normal. Mais maintenant que j'habite plus vraiment à Val-d'Or, c'est là que je me rends compte que c'est quand même drôle d'arriver dans une ville. Puis là, une des premières affaires que tu vois, c'est un énorme trou comme ça.
Tout de suite, en rentrant dans la ville, on voit à notre droite le trou abandonné par une minière qui avait fait faillite à l'époque puis qui était partie sans restaurer le site. Aujourd'hui, elle est de retour en fonction et gérée par une autre entreprise, mais le trou, lui, c'est toujours le même. Je pense à la carte des claims, puis je suis comme pris d'un vertige. J'ai l'impression de flotter dans un monde étrange, vide. Je vois des centaines de trous, comme ceux à l'entrée de Val-d'Or. On dirait que je suis comme sur la Lune. Des plaines grises à pu finir, des cicatrices. C'est peut-être même pas la Lune. On dirait que je suis sur une autre planète. Mais là, j'arrive chez mes parents. Juste à temps pour sortir de ma bulle puis chasser ces idées-là.
Je sais pas si on a de la place dans le cours.
Mes parents, c'est vraiment deux personnes incroyables. Ils sont intelligents, ils sont curieux, puis aussi, ils sont vraiment drôles. Peu importe les projets, puis peu importe les défis, ils m'ont toujours soutenu. Je l'apprécie beaucoup parce que, ben, c'est un peu grâce à ça que je vous parle aujourd'hui.
Allô!
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 T'as fait
de
drôle?
Oui, c'était long, mais on
est là. T'as trouvé ça long, facile.
Ma mère Annie, c'est une personne sensible avec une grande écoute. Elle adore tous les animaux, sauf les serpents. Puis des fois, parce qu'elle est introvertie, son sens de l'humour peut être sous-estimé, mais c'est la meilleure pour puncher une blague. C'est une personne aussi très consciente des enjeux environnementaux, puis elle cherche souvent à faire des choix plus responsables. Elle travaille pour la ville de Val-d'Or. Mon père Éric, c'est de la bonne humeur sur deux pattes. Il a le don de s'entendre avec tout le monde. Il aime faire des farces, il a une passion pour la vaisselle et il adore écouter les games du Canadien. Il est directeur du département des pièces dans un concessionnaire automobile. Pour mes parents, les années 90 en Abitibi, ça n'a pas été facile. Quand je suis né en 1994, le prix de l'or était au plus bas, les mines roulaient pas, puis les gens quittaient la région parce qu'il n'y avait pas de job. Mais mes parents sont restés quand même. Puis oui, aujourd'hui, l'économie roule dans le tapis dans la région, mais eux, ils s'en rappellent encore, ça a l'air de quoi ici, quand les mines ferment. J'avais envie de leur demander ce qu'ils savaient et pensaient de l'arrivée des mines de lithium dans la région.
On se tient un petit peu plus au courant dans le sens où que ça se passe à la Corne, du village d'où est-ce que je viens, dans le fond. Ma famille travaille là, fait que c'est important pour nous. Mais je sais que c'est pas juste la Corne. Je sais que ça va vers la Motte aussi. Puis il y a un côté environnemental aussi là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas en accord avec ces projets-là. Cependant, je peux pas dire que je connais à fond le sujet.
Contrairement à avant, il n'y avait pas tant de demandes encore avant la pandémie, des voitures électriques, avant qu'on se rende compte de tout ça. Puis là, je trouve qu'il y a un réel engouement. Là tout change.
C'est sûr que, étant donné qu'Éric travaille dans le monde de l'automobile, puis que le monde de l'automobile est lié aux mines de lithium, bien, on sait que ça l'intérêt est là aussi. Là.
Oui, je l'avais pas, il y a 4 ans, puis là, je l'ai. Ce que j'aime annoncer un peu comme ça, c'est comme le plus gros événement du véhicule depuis la création du véhicule. On va vivre le plus gros changement qu'il y a jamais eu depuis ce temps-là. Fait que là, on parle d'une centaine d'années. Là.
C'est lié au monde de l'automobile, mais c'est lié aussi... pas juste
ben
à l'automobile.
Non.
Fait que est-ce que... Tu sais, on le sait pas. Est-ce qu'à la Corne, ça va être vraiment destiné au monde de l'automobile? Je sais pas. C'est ça. On n'est pas
non,
au courant de
tout.
Tu sais, on associe ça souvent vite au monde de l'automobile, mais c'est pas nécessairement à ça que ça va servir.
Mais, tu sais, vous vous sentez comment par rapport à ces projets? Parce que là, c'est 3 nouveaux projets, mais vous autres, comment vous voyez ça? C'est quelque chose que vous trouvez qui est bon pour la région? C'est quelque chose qui vous inquiète?
Bien, étant donné que j'ai des oncles qui travaillent là, mon grand-père a travaillé à la mine de lithium dans le temps à la Corne. Fait que c'est sûr, il y a un côté fierté, puis il y a un côté que tu viens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, puis l'Abitibi, c'est les mines. Fait que t'es fier. Mais il y a un côté qui m'inquiète. Une autre fierté qu'on a, c'est notre eau, puis les rivières. Puis, encore une fois, je m'y connais pas à fond dans le projet, mais je sais qu'on parle de danger de la nappe phréatique, et ça, ça m'inquiète.
On pense que ça va être pour les bonnes raisons, mais on espère que ça va être vraiment pour les bonnes raisons, mais on n'est pas certain de rien parce que l'information n'est pas si claire. Comment que ça va être fait? On est-tu tant au fait que ça? On ne l'est pas vraiment, là.
J'ai demandé à ma mère si mon oncle était heureux d'avoir commencé à travailler à la mine.
Hey, garde! Tu sais, mes oncles, là, ils ont toujours travaillé, évolué dans le milieu des mines, travaillé ses drills. Tu sais, quand que j'étais... jeunes, eux, ils partaient travailler sur des runs. Ils partaient des fois des mois entiers en forêt, là. Ils vivaient dans des camps, des tentes, puis ça travaillait fort au froid, l'hiver. Donc, arrivé, tu travailles à quoi, 20 minutes, une demi-heure de chez vous. Tu reviens à tous les soirs chez vous, dans ta maison, voir ta famille. Pour eux, c'est énorme, là. Puis pour leur famille aussi.
Mm-hmm. Qui va être heureux, lui, là, là c'est sûr, là. Mm-hmm. C'est sûr, c'est sûr.
Un peu plus tard dans la conversation, j'ai voulu leur montrer la carte des claims. Je savais pas s'ils avaient déjà posé les yeux dessus.
La carte ici, en rouge, c'est le territoire qui est claimé en ce moment. C'est les claims actifs.
Wow!
C'est plus difficile de voir où est-ce qu'il y en a pas.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a.
Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est quoi, c'est
à
fou.
Part Abitibi-Est, puis dans le sud du
territoire. Ouais, mais si tu parles à partir de Val-d'Or et tout ça, là, vers Rouyn-Noranda, c'est fou.
Ouais.
Fait que tout...
tout ça, c'est acheté.
OK.
Tout ça, en principe, c'est acheté. Puis le but, c'est de l'explorer puis voir si on peut faire une mine avec.
Écoute, il va y avoir des trous partout. C'est... On va finir un gros trou.
Ouais. Dans le fond, si ça devient ça, ça va faire dur.
Mais là, je sais que là, dans les prochaines années, on va vouloir du lithium à côté.
Mm-hmm.
Puis là, je vois tout ça, puis je me dis, le prix à payer, mettons, pour... Mettons que le lithium sauve la planète. T'sais, le prix à payer, c'est quoi l'Abitibi? Quel prix on est prêt à payer en Abitibi? T'sais, est-ce qu'on veut que tout ça, ça devienne potentiellement une mine puis qu'il y en ait partout?
Ben là, si on parle de sauver la planète, je me sentirais cheap de ne pas me sacrifier pour sauver la planète.
Ouais. S'ils peuvent me le confirmer qu'on va sauver la planète. Parce que là, me dire, on va tous bien de fermer la région, là, ça va faire...
Ou mettons que ça ne sauve pas la planète. Non, bon, mais... on a des besoins de lithium.
Ouais.
On a besoin de lithium.
Pour des voitures, mettons.
Pour des voitures.
T'sais, mettons, pour des voitures, je me dis, est-ce que les voitures sauvent le monde?
Mais là,
ça fait beaucoup à réfléchir.
Oui.
Moi, je trouve ça gros.
Parce qu'on ne sera pas assez au courant. Comme là, tu me mets au courant de tout ça, puis je ne sais pas. Puis
ben
je sais
moi,
pas si le monde réalise l'impact que ça pourrait avoir, mettons que ça serait tout vrai.
Oui, t'as pas...
Il se rend pas compte, ça te glisse entre les mains.
Je suis pas capable de répondre.
Non, mais je sais, c'est vrai.
Je me rends compte que j'ai pas assez d'éléments pour répondre à ta question.
C'est inquiétant.
Ben oui.
Ben,
jusqu'à parce que dans le fond,
oui.
Je le sais pas.
Ouais. Mais quand tu regardes juste la carte de même, c'est sûr je dis non. Là.
Moi non plus, j'en ai pas assez d'informations. Il me manque des réponses. Si mes parents sont confus, si je le suis, on n'est peut-être pas tout seul à l'être. Puis si on est une gang à pas trop comprendre ce qui se passe, on est-tu vraiment prêt à foncer dans un nouveau boom minier puis un possible plan de transition énergétique? Dans les prochains épisodes, vous allez m'entendre discuter avec des travailleurs du secteur minier, des citoyens, des membres de ma famille, des experts en environnement, en économie puis en développement social. Ils vont m'aider à mieux comprendre ma propre région, à m'y reconnecter, puis mieux comprendre les enjeux qui influencent ce qui va se passer à côté de nos villes et de nos villages. Mais pour commencer, je trouve ça important et logique même d'aller à la rencontre de ceux qui occupent le territoire ici depuis des millénaires, les Anishinaabe. Je vais rencontrer quelques membres de communautés qui sont aux premières lignes des projets miniers à venir. J'ai envie d'écouter ce qu'ils ont à dire sur ces projets-là, mais aussi sur le territoire, qui ont vu changer rapidement au cours des dernières années. Vous venez d'écouter le premier épisode d'Au pays des cratères. Merci aux personnes entendues dans cet épisode, Elliot Muller, Rodrigue Turgeon, Alec White, Annie Saint-Pierre et Éric Poirier. Scénarisation, réalisation et prise de son, Élise Carlambert et Gaëlle Poirier. Conseil au contenu, Sonia Bonspil-Boileau et Richard Desjardins. Niawan et merci. Production, montage et lecture des communiqués, Élise Carlambert. Narration, Gaëlle Poirier. Enregistrement des voix, Gabriel Poirier-Lemoine. Musique originale, Monsieur Saturne. Musique additionnelle, Saratoga. Conseil à la composition musicale, Claudie Bertounesque. Conception sonore, Mathieu Bourque. Mixage sonore, Luc Boudria. Coordinatrice de projet, Service sonore chez Melz, Caroline Bernard. Directeur développement des affaires post-production chez Melz, Raphaël Rainville. Conseil juridique, Vanessa Loubineau, Artem. Remerciements spéciaux, Melz, Annie Saint-Pierre, Éric Poirier, ainsi que Thomas Gauthier et Brigitte Voisard. La création de cette œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, Prime et Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec.